The Artificial Kid est un cycle d'expositions et d'événements organisé à la Maison Populaire de Montreuil par Elsa Vétier, commissaire en résidence en 2022. Tout au long de l'année, ce cycle s'accompagne d'un programme radiophonique conçu en collaboration avec DU. Wonderland, une exposition de Julia Cher, est le deuxième volet de ce cycle. Présentation par Elsa Vétier.
On est dans le centre d'art de la Maison Populaire et dans Wonderland, qui est une installation de l'artiste américaine Julia Cher. Donc tout ce que vous voyez là, en fait, fait partie de cette installation qu'elle crée en 1998 pour la galerie Andrea Rosen à New York. En fait, la pièce commence un peu à partir du moment où elle fait cette série de photos qu'on voit là au mur, qui sont ces grands tirages agrandis. En fait, en 96-97, elle décide de photographier des enfants. Elle les invite à un shooting photo dans lequel elle leur propose de s'accessoiriser avec des uniformes roses, donc qui sont devenus un peu sa marque de fabrique, des casquettes roses, mais aussi de se saisir d'instruments qui peuvent matérialiser une forme d'autorité ou de surveillance. Donc il y a les caméras, il y a les matraques. En fait, il faut savoir que à cette période-là, donc à la fin des années 90, Julia Cher, ça fait à peu près 10 ans qu'elle expérimente autour des dispositifs de sécurité. Elle a en fait elle-même créé sa propre boîte de vidéosurveillance après s'être vraiment formée à l'installation de ces dispositifs-là, notamment dans la sphère privée. Donc elle crée en fait dans les années 80 une boîte qui s'appelle Safe and Secure Productions, avec laquelle elle propose à des femmes, donc vraiment un peu dans cette idée que la surveillance va créer une sorte de safe space pour des femmes quand elles rentrent chez elles, elle leur propose d'installer des caméras devant chez elles. Et c'est dans ce contexte qu'elle crée un peu ses uniformes roses ce qui va devenir un peu sa marque de fabrique, le Security by Julia, qui est un peu une sorte de signature, mais aussi presque de marque, dans le sens de vestimentaire. Donc elle a cette pratique de technicienne de vidéosurveillance. Et en parallèle, elle a aussi une pratique artistique, elle a fait des études d'art, et elle fait essentiellement de la peinture de paysage. Et il arrive un moment, vers la fin des années 80, où elle décide de se faire se rejoindre ces deux sphères-là, et donc elle commence à utiliser des caméras et des moniteurs dans les espaces d'exposition, souvent sur des principes assez simples et assez radicaux, c'est-à-dire juste installer une caméra de surveillance dans un musée et voir. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment les gens réagissent, modifient leur comportement, leur expression à partir du moment où il y a cette caméra. Donc il y a presque quelque chose plutôt de l'ordre performatif. Ça l'intéresse plus, en tout cas, j'ai l'impression, que la question vraiment de l'image captée par la caméra. Et d'ailleurs, souvent, les moniteurs, quand il y en a, là où les visiteuses s'attendent à voir leur image réapparaître sur le moniteur, souvent, elles s'amusent justement à diffuser des images qui n'ont rien à voir avec la situation en cours, que ce soit des images qui ont été prises à un autre moment ou des images qui ont été prises dans un autre espace. Donc, il y a toujours une forme de... Comme ça, elle vient jouer un peu sur la déception aussi, je pense, de se voir, de pouvoir contrôler son image. Et elle a développé aussi un ensemble de performances qui est un peu à ses débuts à ce moment-là, qui s'appelle Security by Julia, et dans lequel elle fait intervenir des personnes qui sont le moins susceptibles d'incarner l'autorité dans l'espace public. Donc elle se tourne dans un premier temps vers des femmes âgées. Elle travaille avec une maison de retraite pour Security by Julia 2, je crois. Et puis, un peu dans la continuité de cette réflexion, elle se tourne vers les enfants. Et donc là, on est à la fin des années 90, et elle fait ce fameux shooting photo où donc elle parle un peu autour d'elle à des gens en disant « tes enfants seraient d'accord pour... je cherche des enfants pour faire ce shooting photo avec moi. » Et donc, elle va réunir des enfants qui sont plutôt des enfants d'artistes, d'amis artistes de la scène new-yorkaise de l'époque, des enfants qui ont un peu une appréhension, en tout cas, de ce que peut être la performance, ou du moins qui a de l'aspect un peu de la question du jeu de rôle. Donc elle photographie un certain nombre d'enfants, je crois qu'il y en a 7. Et puis en 97, elle fait une première version de la pièce avec ses images d'enfants. Et en fait, elle propose à des enfants de venir avec ses uniformes roses performer en fait, dans l'espace du musée où elle présente sa toute première version. La toute première version de la pièce ne ressemble pas du tout à ce que vous voyez là. C'est vraiment une petite borne d'accueil à l'échelle des enfants avec des ordinateurs qui sont une technologie qui, à l'époque, ils découvrent, parce que c'est très rare d'avoir un ordinateur et Internet chez soi en 97. Et donc, l'idée, c'est que les enfants viennent un peu prendre le contrôle de cet espace, de cette salle du musée dans lequel elle présente cette pièce, et qu'ils expérimentent un peu le fonctionnement d'Internet. Donc, il y a l'idée d'un terrain de jeu un peu expérimental, et Julia dit d'ailleurs que les enfants le prennent tout de suite très, très au sérieux, cette mission en tout cas d'accueil et de contrôle qu'elle leur confie de manière un peu parodique. Et puis en 98, elle est invitée donc, par Andrea Rosen à New York pour montrer la pièce. Et là, elle va prendre une forme qui est assez différente et qui est la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que la participation des enfants, notamment leur présence, on va dire, physique dans l'espace, va se cantonner à ces grands posters, donc qui sont les images qu'elle a du shooting, mais ils ne sont plus invités à vraiment à intervenir dans l'espace. En fait, ça se matérialise très concrètement. Elle referme en fait la borne d'accueil. Donc la borne d'accueil, elle prend vraiment cette forme circulaire fermée sur elle-même qu'on voit là. Et ce n'est plus les enfants qui manipulent les ordinateurs et les différents éléments autour du bureau, mais c'est un programme informatique qui prend le relais en fait de ça. Et donc ce programme, il va distribuer dans le temps la lumière et le son. Et en fait, par un principe assez simple et assez infini, c'est-à-dire que tous les quarts d'heure, la pièce se réinitialise et le programme informatique lance une sorte d'introduction dans laquelle on entend les premières notes de White Rabbit de Jefferson Airplane, et il y a une spirale qui se balade sur le mur, et on va choisir qui va choisir en fait un des trois enfants présents en photo pour nous surveiller pendant le quart d'heure qui arrive. Et puis le programme informatique choisit de manière aléatoire une des pistes possibles. Il y a des pistes où c'est toujours Julia qu'on entend, donc on ne la voit pas, mais on l'entend à travers les enregistrements qui sont diffusés dans l'espace. Donc c'est soit Julia qui donne des instructions sur Wonderland, soit elle donne des messages d'avertissement, ou alors elle prend la voix de Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est une voix transformée qui a des accents très enfantins, un peu naïfs, et à travers lesquelles elle pose plein de questions sur l'espace, ou alors elle prend la voix de la reine. Effectivement, l'installation s'appelle Wonderland, donc il y a toute une référence à Alice au Pays des Merveilles, à l'idée d'un monde qui serait inversé, où les enfants seraient les figures d'autorité, et nous, en tant qu'adultes, on est un peu englués ou rapetissés par, dans les miroirs, puisqu'il y a aussi tout ce mur de miroirs déformants dont je parlerai tout à l'heure. Et en fait, cette référence à Alice au Pays des Merveilles, elle ne sort pas de nulle part. Julia Cher a grandi à Hollywood dans les années 50. C'est un univers très, très important quand on regarde Wonderland, parce qu'à partir du moment où elle va travailler avec les enfants, elle va vraiment aussi remobiliser tout ce souvenir assez traumatique de Hollywood, de son enfance à Hollywood, et tout le paradoxe en fait, qu'il y a à Hollywood autour de l'enfance. Et de l'âge adulte, c'est-à-dire que Hollywood, c'est un endroit où, en tout cas c'est la perception que Julia en garde, c'est un endroit où les enfants sont extrêmement, extrêmement observés, regardés, scrutés, dragués par une industrie cinématographique qui cherche à caster des enfants pour des pubs, pour des films, mais c'est jamais un regard bienveillant, c'est pas un regard protecteur, c'est pas un regard qui protège en fait des problématiques, on va dire, du monde adulte. Et c'est aussi un espace où il y a une grosse ambiguïté autour de l'âge. Les enfants deviennent adultes très tôt quand ils travaillent dans le milieu du cinéma, ils se professionnalisent, voilà. Et en même temps, dans l'autre sens, les adultes sont souvent amenés à jouer des enfants ou à leur prêter leur voix. Et en fait, il y a un cas très concret dans la vie de Julia, c'est que son institutrice de maternelle était la voix de Alice au Pays des Merveilles dans le Disney des années 50. Ça, c'est un truc hyper marquant, très très important pour la pièce, parce que dans cette figure en fait, d'institutrice, ben, repose tout ce paradoxe pour Julia, c'est-à-dire que la figure d'autorité, la maîtresse, en fait, elle a la voix de cette petite fille complètement perdue, qui vit dans un monde sans repères. Donc, voilà, et effectivement, je parlais de la voix qui plane au-dessus de l'espace. C'est un dispositif auquel Julia Cher a beaucoup recours dans ses pièces. Il y a à la fois l'idée de, je pense, elle s'appuie sur la manière dont la voix sans corps peut être diffusée dans des espaces, je pense, militaires ou dans des dispositifs coercitifs où on entend en fait un peu comme ça l'autorité qui n'est pas présente physiquement mais qui est diffusée par des haut-parleurs, voilà. Mais il y a aussi ce lien avec le doublage et avec Hollywood, parce que c'est plutôt elle, cette sphère-là, qu'elle a côtoyée, c'est-à-dire plutôt les seconds couteaux d'Hollywood, donc pas forcément les stars de cinéma, mais beaucoup de gens qui faisaient du doublage et donc dont on connaissait pas forcément l'image, mais dont la voix était familière. Donc ça, c'est un truc super important pour la pièce, et donc du coup, elle pousse un peu cette référence à Alice au Pays des Merveilles, notamment en définissant ce petit bureau, donc qui fait comme une sorte de trou, comme un rabbit hole, donc vraiment le trou par lequel le lapin blanc s'échappe. Et quand on le suit, qui nous fait basculer dans un monde à l'envers, où effectivement les enfants sont immenses. Il y a tout un jeu d'échelle dans la pièce, il y a des très très grands enfants en photo sur les posters, il y a un énorme dispositif lumière qui est beaucoup plus grand que le bureau en lui-même. Et puis il y a ces miroirs déformants qui viennent ajouter une couche de déformation. Donc c'est assez rigolo parce que ce mur de miroir, c'est vraiment ce qui attire l'attention des enfants ici. On le voit, ils sont totalement captés par leurs reflets déformés, ça les met en mouvement, ils font des chorégraphies, ils font des grimaces, c'est vraiment l'endroit qui les concentre entièrement. Et donc c'est un ensemble de panneaux miroirs concaves et convexes et circulaires. Qui sont placés légèrement à distance de l'installation, enfin du bureau, et qui du coup nous permettent de le voir aussi tout petit, très grand, à l'envers, en même temps que nous on se reflète. Et dans l'idée de ces panneaux-là, bon, il y a évidemment l'idée un peu du Pays des Merveilles, mais il y a aussi quelque chose pour Julia qui se raccroche à l'adolescence. Et à l'idée de ne plus se reconnaître dans le miroir, d'avoir un corps qui est qui est soudainement un peu déformé et qu'on n'arrive plus à, dans lequel on se reconnaît plus, puisque toute la pièce parle vraiment de cette question du passage du temps, du passage à l'âge adulte. Il y a toute l'atmosphère lumineuse qui est très travaillée et joue beaucoup sur ces effets un peu crépusculaires. Il y a beaucoup de mauve, de violet qui tire parfois vers l'obscurité, qui est une image aussi très hollywoodienne, hein, du Twilight et tout ça, mais qui est vraiment liée à cette idée du temps qui passe. Et c'est pour ça aussi que l'installation est très rythmée et que, en fait, par effet d'algorithme qui rebat toujours les cartes, en fait, et sonores et lumineuses, qui nous perd un peu aussi temporellement. Et puis aujourd'hui, on est en 2022, la pièce a presque 25 ans d'existence. Et il y a plein de strates temporelles qui viennent s'y rejoindre. Il y a le côté très 70s de l'hymne de Jefferson Airplane, White Rabbit. Il y a aussi la technologie qui est la technologie des années 90, donc ces ordinateurs, ce petit piano, ces images qui sont dans une esthétique très publicité Gap des années 90. Et puis l'artiste, Julia, quand la pièce a été remontrée en 2018, a ajouté des petites choses qui font qu'on est quand même dans un esprit contemporain, on va dire. Notamment, il y a un petit détail, c'est une borne Alexa, qui est imprimée en 3D, en rose bien sûr, parce que tout est évidemment rose chez Julia, qui vient s'additionner à la technologie un peu obsolète de la pièce. Peut-être dernière chose, il y a sur cet ordinateur, donc les ordinateurs des années 90 qui sont dans la pièce ne sont plus opérationnels en tant que tels. Par contre, ils existent à l'état d'écran. Et il y a notamment un ordinateur sur lequel on voit des images qui sont datées de l'année 98, de juillet 98, où on voit des ouvriers sur un chantier, donc on se demande un peu ce que c'est. En fait, quand Julia Cher a créé la pièce sous cette forme pour la galerie Andrea Rosen à New York, Andrea Rosen était en train de se faire construire un autre espace pour sa galerie. Et Julia, de manière un petit peu piquante, je pense, leur a proposé, enfin en tout cas un peu humoristique, leur a proposé de surveiller leur chantier depuis l'installation. Et donc, elle a installé cette caméra, enfin plusieurs caméras, et ce direct qui permettait aux galeristes de suivre l'évolution de leur chantier. Et puis, donc, je pense une sorte de pirouette un peu aussi sur la volonté de contrôle des galeristes. Et puis aussi une sorte d'acception un peu littérale de ce qu'était Internet à l'époque, c'est-à-dire ouvrir d'autres espaces, permettre depuis l'ordinateur d'être à l'autre bout du monde. Bon, bah, elle propose d'être juste au bout de la rue, sur le chantier. Voilà. Et puis, il y a un petit piano. Les enfants ne peuvent plus contrôler la machine. Par contre, ils peuvent encore jouer du piano et entendre le bruit des touches qui font des bruits un peu cartoonesques. Voilà.
Mouse is up. Your space, not your potency, is important to us. Attention, robot mannequins prowling now. Attention, this smart space is resetting automatically. The door now says.